Voilà, en deux noirs, suite et fin. On va commencer toujours par vous parler évidemment de romans noirs avec un livre de Thomas H. Cook qui s'appelle Les Feuilles Mortes. C'est paru à la série noire, ça vient juste de sortir hein, chez Gallimard donc. 22,50 € et traduit par Mystère Complet parce que c'est L.
L majuscule.
L majuscule, point. Bon, un anonyme, enfin c'est bizarre mais bon. Donc ça c'est vraiment un grand coup de cœur, un roman absolument magnifique qui prend au trip et qui commence par, dans les premières pages, je cite, « Les photos de famille mentent ». Donc c'est le récit qui commence ainsi, récit d'Eric. Il s'y connaît Eric puisqu'il est propriétaire d'un magasin de photos dans une petite ville américaine de la côte Est. Il est marié à Meredith, tout va bien de ce côté-là, semble aller bien. Il a un fils Keith, un ado qui est peu disert, mais bon, au demeurant pas plus perturbé que ça, que les autres boutonneux de son âge, hein. C'est un ado, quoi. Il est un peu chiant, il est un peu tout ce que vous voulez, mais c'est un ado. Donc en fait, Eric, au début du roman, peut savourer quelques barbecues dans la douceur de l'été indien qui débute et admirer donc les magnifiques feuilles rouges et or. Mais quand les feuilles seront tombées, quand on aura les feuilles mortes, donc, sa vie aura basculé. Keith aura été soupçonné d'avoir enlevé la fillette qu'il gardait. En fait, un soir, Keith va faire du babysitting et le lendemain matin, évidemment, il est rentré, il dort et les parents s'aperçoivent que la gamine a disparu. Forcément, il est tout de suite soupçonné, surtout que très vite, il va y avoir des trous dans son emploi du temps. Et ce n'est pas un livre sur l'enquête qui va suivre, mais un livre qui va centrer autour du personnage du père, Eric. En gros, l'amour paternel qu'il lui porte, pourra-t-il protéger son fils, d'abord son fils, mais aussi toute sa famille. Donc on a une narration à la première personne pour qu'Eric nous fasse le témoin de son histoire, de cette tragédie d'un père qui est rongé par le doute, qui se reproche en fait de n'avoir pas assez d'amour pour son fils afin de le sauvegarder. En fait, ici le mal n'est pas l'autre, l'étranger, le tueur ou qui que ce soit, qui vient détruire tout ce qu'on a pu essayer de construire. Non, le mal, il est en Eric. C'est la rouille, l'acide qui le ronge de l'intérieur. À un moment donné, il parle du monstre alien qui sort comme ça des tripes du personnage. Et c'est un petit peu ça, ça vient de l'intérieur. Et le récit va crescendo. Même si l'auteur nous a subtilement préparé à la chute, le lecteur va se prendre encore une grande baffe dans les dernières pages. Et ça, c'est encore une qualité du roman parce que les romans noirs qui se terminent avec des chutes fantastiques, il y en a de moins en moins. En plus de tout ça, d'une narration vraiment, d'une très belle histoire, il y a une très très belle écriture aussi qui est en quelque sorte transparente afin qu'on sente encore mieux les fêlures d'Eric. C'est un style très épuré qui sert une confession distillée un petit peu à mi-voix, sans éclat ni fioriture. Un récit vraiment magnifique, mais très 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 noir. En effet, dans ce roman, il ne peut y avoir aucune lumière, aucune rédemption n'est possible. Au fur et à mesure que tombent les certitudes de ce père, ce mari, ce fils qu'il a été. Et en gros, les feuilles mortes recouvriront à jamais l'espoir et les illusions, à jamais enfouies dans quelques clichés familiaux, désormais inutiles. On a l'impression de temps en temps d'ailleurs qu'on feuillette un album photo et que tout d'un coup, comme dans certains films qu'on a vus, il y a une combustion lente de ces clichés qui sont au départ très beaux, mais qui, sous la flamme ou sous la chaleur, se racornissent pour devenir des petits morceaux tout noirs. Alors, pour montrer une idée du style, je vais vous lire tout bêtement le début du roman, l'incipit, comme on dit dans les milieux autorisés. Voilà. Voilà comment ça commence. Quand vous songez à cette époque, c'est sous forme de photo. Vous revoyez le jour où vous avez épousé Meredith. Vous tenez tous les deux sur le perron de la mairie par une belle journée de printemps. Elle se blottit contre vous dans sa robe de mariée, sa main glissée sous votre bras. Elle porte un petit bouquet sur sa robe. Au lieu de regarder l'objectif, vous ne vous quittez pas des yeux. Votre regard pétille et l'air danse autour de vous. Vous effectuez quelques petits voyages avant la naissance de Keith. Vous vous revoyez en radeau sur le fleuve Colorado, au milieu des éclaboussures, ébloui par le feuillage d'automne du New Hampshire, au sommet de l'Empire State Building, où vous faites l'imbécile devant l'appareil, pieds écartés, poings sur les hanches, comme le maître de l'univers. Vous avez 24 ans, elle 21, et votre confiance l'un dans l'autre est si totale qu'elle confine à l'impudence. Vous n'avez peur de rien. L'amour, pensez-vous alors, est une armure invincible. Voilà, ça a déjà presque une petite couleur sépia sur ce cliché qui va petit à petit disparaître. On pense à un film absolument magnifique pour ce livre, qui est un film qui s'appelait American Beauty. On voyait comme ça, au départ, l'image d'une famille américaine, middle class, absolument magnifique, tout pour être heureux, et petit à petit, tout s'endille. Ben, on retrouve ça dans ce roman. C'est un très beau roman. Les feuilles mortes, Thomas H. Cook.
À la série noire.
À la série noire. Jacques,
on se rapproche d'ici pour un roman qui se passe vers Marseille. C'est le roman qu'on aime bien avoir à l'automne, cette année, là, on a un peu de chance, on a une belle arrière-saison, un petit été indien, mais vous savez, l'automne, c'est un peu tristouné, et on a besoin un petit peu d'un remontant pour se remettre en forme après toutes ces vacances et la rentrée des classes, tout ça, c'est affreux. Une liqueur de jouvence, notre dopamine à nous, et notre dopamine à nous, c'est le nouveau Contrucci qui arrive. Cette fois-ci.
Jean de son prénom, Jean Contrucci.
Jean Contrucci, voilà. Donc c'est le septième tome déjà des Nouveaux Mystères de Marseille. Celui-là s'appelle Les Guet-apens de Piscatoris. Et c'est toujours une enquête du duo marseillais de Contrucci, Raoul Signoret, journaliste de son état, et Eugène Baruto, qui est directeur de la Sûreté. Cette enquête va les mener dans le petit village de Saint-Marcel, qui est encore à l'époque, au début du siècle pas dernier, mais celui d'avant, vers les années 1900, est encore à la périphérie de Marseille. Tout commence par une chasse au sanglier où les deux compères se rendent, plus par amitié que par goût de la chasse. Ça le branche
On
pas
peut
vraiment.
Avoir le goût du sanglier, ceci.
Voilà. Et en fait, ils découvriront, pendant cette battue, non seulement le cadavre d'un suidé, n'est-ce pas, un gros sanglier de 100 kilos, mais aussi le cadavre d'un riche propriétaire terrien du village, Gaston Cadenel.
Donc le village de Saint-Marcel.
Au village de Saint-Marcel. Un des notables de Saint-Marcel. Les fausses pistes, comme toujours, vont se succéder, décidément, ce soir. Tout d'abord, bien sûr, c'est facile, Pierrot, l'étranger, le babi, comme on disait à l'époque, le fils de l'italienne. Puis, ça sera le voisin, et puis bien d'autres. Mais Raoul, il ne se laisse pas prendre par les apparences. Il est tenace. Et surtout, quand les malédictions du curé tombent sur lui, l'autorité morale du village, à l'époque, c'était quand même vachement important, qui tente de lui faire abandonner ses investigations, il n'en sera pas question.
Par des manœuvres sordides, d'ailleurs.
Voilà, que vous découvrirez. Et donc, rancœur, haine, vengeance, amour contrarié, depuis Sophocle, n'est-ce pas, rien n'a changé, même sur les rives...
C'est un Marseillais, lui ?
Non, mais même sur les rives de Luvonne, je resitue rives de Luvonne, hop, Luvonne passe à côté de Saint-Marcel. Maintenant, il y a l'autoroute et puis il y a des grands centres commerciaux. Voilà. Un nouveau mystère de Marseille ne saurait être sans un volet social. Ici, Contrucci n'oublie pas d'évoquer les conditions de travail pénibles des lavandières qui lavaient le linge dans l'eau froide l'hiver, évidemment, puisque ces gens-là ont besoin d'avoir du linge propre, même en hiver, c'est bien logique. Et aussi les conditions de travail des ouvriers verriers de l'usine locale, qui s'usent la santé entre la chaleur quasi infernale des fours et l'air chargé en soufre qui détruit leurs poumons. Heureusement, et malgré tous ces malheurs que côtoient nos héros, ils n'oublient pas la convivialité qui donne tout son sel à la vie, n'est-ce pas ? Et entre les petits vermouths sucrés et les fromages de chèvre affinés dans les collines, quelques pieds et paquets de la recette de M. Ginouvès, n'est-ce pas, vous redonneront vigueur et surtout bonne humeur à nos valeureux enquêteurs et à leur famille.
Voilà, alors on rappelle le titre, ça fait partie des Nouveaux Mystères de Marseille. Jean Contrucci, Jacques, tu vas...
C'est paru chez Jean-Claude Lattès, et si vous voulez lire, les 3 ou 4 premiers sont reparus en édition de poche, je crois, au livre de poche.
Donc on suit les aventures de Raoul Signoret, et... En toile
de
fond.
De sa petite famille. Voilà. Et en toile de fond, l'histoire à la fois de quartier de Marseille et
Des petites gens de Marseille,
voilà,
on peut dire.
Voilà, des petites gens qui sont souvent confrontés, déjà à l'époque.
Et ça explique aussi toute l'économie de Marseille, puisqu'on voit à peu près toutes les industries. On a vu les cigarières, les savonneries. Voilà. Ce sont des romans totalement passionnants, très intéressants, avec des drames et des moments de bonheur. Voilà. Hautement recommandable. Un petit morceau de musique, Jacques ?
Oui, donc là, pour fêter les 40 ans de la sortie du premier album de Creedence Clearwater Revival.
Nous n'étions pas nés, n'est-ce pas ?
Non, leur maison de disques a eu la bonne idée de rééditer tous leurs disques avec quelques petits bonus. Et donc là, nous allons profiter d'un bonus qui est une de leurs premières chansons, une des premières chansons qu'ils avaient enregistrées, mais qui n'est parue que dans leur cinquième et dernier album. Mais ce coup-ci, elle est dans le premier de la première session d'enregistrement. Un petit blues de Bo Diddley qui s'appelle « Before You Accuse Me », qui va très bien d'ailleurs avec ce genre d'histoire. Avant d'accuser, il faut d'abord rechercher. Before you accuse me, take a look at yourself.
Dance Creator Revival. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Alain Bondry. Alain Bondry, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de nous rejoindre. Donc, on va essayer de collaborer régulièrement, que vous reveniez un petit peu nous voir, pour nous parler à chaque fois d'un coup de cœur. Et ce coup de cœur, aujourd'hui, vient d'Italie.
Oui, c'est un roman de Loriano Machiavelli, qui est paru aux éditions Métayer. Cette année, il s'intitule « Derrière le paravent ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est paru en France cette année, donc en 2008, alors qu'il était paru en Italie en 1978.
30 ans.
Oui, voilà. Alors, ce qui explique d'ailleurs quelques mises au point de l'auteur pour la présente édition dans une préface pour l'édition française, où il précise quelques événements qui, entre-temps, ont changé sa bonne ville de Bologne.
Oui, en 30 ans, il y a eu de quoi avoir quelques changements, effectivement.
Oui, par exemple, quand il parle de cellulaire, il s'agit pas de cellulaire, pardon, il s'agit pas de téléphone, mais de camion de flic.
Oui, fourgon cellulaire.
Voilà. C'est pas bien salade quand on est en français. Voilà. Alors, on connaissait, je parlais un petit peu de l'auteur, hein, on connaissait Loriano Machiavelli, qui était d'ailleurs un cofondateur du groupe 13, avec Marcello Foïs et Carlo Lucarelli, qui est une pépinière de nouveaux auteurs de polar italien. Et puis, on le connaît aussi pour deux autres romans qui sont parus aussi chez Métellier. C'était Les Souterrains de Bologne en 2004 et Bologne Ville à Vendre en 2006. Voilà. Alors, il est un auteur, de mon point de vue, particulièrement original parce qu'il a inventé un personnage de flic. Ça, c'est pas formidable. C'est pas extrêmement original. Mais son personnage de flic s'appelle Sarti Antonio et est totalement inénarrable. C'est un buveur de café impénitent. Il est le pauvre mal torturé par des colites qui le font passer des heures aux toilettes.
Ce qui, pour les enquêtes, ne l'aide pas, il faut bien dire.
Absolument. Alors, il est accompagné aussi de gens qui ne sont pas forcément extraordinaires. Enfin, l'un en tout cas, et c'est, dans ses missions, il est accompagné par Felice Cantoni, qui est le chauffeur de la voiture de patrouille, c'est la fameuse voiture 28. Et ce Felice Cantoni, il bichonne cette bagnole comme si c'était une femme. Et les seuls sujets de conversation qu'il peut avoir avec son chef Sarti, c'est de parler de bagnole, de moteur, de vitesse, de biel, ce qui a le don d'exaspérer Sarti et d'exciter ses colites, évidemment. Alors, il a un autre acolyte qui intervient dans tous ses bouquins, qui intervient pour l'aider, d'ailleurs. Et dans ses enquêtes, c'est le fameux Rosas, qui est une sorte de schizophrène parce qu'il déteste les flics, et qu'il est le meilleur ami de Sarti.
Et qui ne peut pas s'empêcher de l'aider.
Voilà, alors c'est une sorte d'intello crypto-marxiste, gauchiste, anarchiste, qui passe son temps allongé sur son lit au milieu de bouquins, qui est myope comme une taupe, mais qui voit, et je mettrai des guillemets là, et qui résonne souvent à la place de Sarti. Alors si vous voulez, je peux vous donner un petit mot de l'histoire.
Un petit mot de l'histoire qui nous fait découvrir un endroit peu connu de Bologne, un quartier peu connu.
Oui, alors voilà, c'est-à-dire l'histoire en quelques mots. Sarti est chargé de la sécurité d'une exposition de numismatique à Bologne, donc, au cours de laquelle les trois pièces de l'exposition vont être volées. Il est donc puni par son chef, un chef qui est assez comique dans la mesure où il a des tics de langage persistants, et il est envoyé en mission de nuit, dans le pilastre, au pilastre, qui est le chantre de Bologne. C'est un quartier ghetto, voilà, construit à la va-vite pour les émigrés du bas de la botte, hein, c'est-à-dire les Calabrais, Siciliens, etc. Et c'est là qu'il va faire une rencontre importante, magnifique. Il va rencontrer Claudio, un gamin de 11 ans, avec qui il va fortement sympathiser, et il va tenter d'aider. Parce que si Claudio est plutôt intelligent et doué d'une pertinence rare pour son âge, il s'ennuie comme un rat mort à l'école.
Il n'a plus envie d'y aller.
Voilà, il n'a plus envie d'y aller, donc Sarti se dit, eh ben, il faut lui faire quelque chose pour ce gamin, donc il va essayer de lui trouver du boulot dans les garages, parce qu'il est passionné par les voitures, ce petit Claudio. Le drame se produit quand on découvre le cadavre de cet enfant, et Sarti va s'obstiner jusqu'à la fin du livre à trouver la vérité. D'abord parce que Claudio, c'était un gosse auquel il s'était fortement attaché. Et de plus, Claudio avait une très jolie maman et qui aimait assez Sarti quand même.
C'est aussi un argument pour enquêter.
Donc il va fouiller, avec l'aide de son ami Rosas, qui d'ailleurs va lui ouvrir les yeux. Derrière le paravent, d'où le titre, hein, derrière le paravent, derrière lequel se planquent les bonnes consciences.
Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je crois que vous avez été vraiment époustouflé par le style et puis surtout la narration.
Voilà. Alors, si l'intrigue n'a rien de, somme toute, d'absolument original, il n'empêche que ce bouquin m'a complètement procuré un plaisir jubilatoire. C'est surtout par sa narration elle-même. C'est-à-dire l'auteur, Loriano Machiavelli, et le narrateur se confondent parfois, ce qui est assez rare, sauf dans les autobiographies. L'auteur, donc, il tire toutes les ficelles, qui est l'inventeur de son personnage, Sarti, le malmène, le suit, l'écoute, apprécie ses maladresses et intervient directement dans le récit. Il l'appelle « mon policier ». Ainsi, j'ai noté à la page 230, il dit « comment vais-je pouvoir continuer mon métier si on tue mon policier ?» Plus loin, comme je vous le disais, depuis quelque temps, le bon sergent Sarti a pris la mauvaise habitude de penser en silence. Il me met en difficulté parce que je suis obligé de deviner ce qui se passe dans sa tête. Enfin, en gros, c'est un roman, pour terminer, un roman cocasse, par ce style rare, ces procédés de narration inattendus, cette distance qui est créée par les interventions soudaines de l'auteur et ces situations burlesques parfois. Et c'est aussi, et je terminerai là-dessus, un roman tragique, car il est ancré comme tout bon roman noir dans la réalité noire de ce pilastre, ce quartier où la loi ne peut rien pour empêcher la mort d'un enfant et au bonheur de ceux qui savent en tirer profit et tirer profit de leur misère.
Bah, Alain Bandry, il me reste à vous remercier. On a très très envie de découvrir ce roman après toutes ces qualités que vous nous avez décrites. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. Au revoir.
Et on termine l'émission.
Voilà.
Agora Mittendler, 19h sur Agora.